Soyez de Dieu, c'est cela qui nous juge. Et nous devons quand même réfléchir un petit peu sur ce 6 de l'homme. Quand Jésus s'appelle ainsi, il ne revendique pas le titre de Messie, il ne revendique pas le titre de fils de Dieu. Les évangélistes et l'Église primitive l'ont appelé comme cela. Et l'Église primitive et l'évangéliste ont raison. Mais ces titres sont ambigus, parce que Christ, le Messie, loin, c'est le roi, donc c'est une figure royale. Fils de Dieu, mais tout homme est fils de Dieu, mais spécifiquement le roi. Mais homme, homme ou femme, être humain, nous le sommes tous. Et donc, quand Jésus s'appelle le Fils de l'homme, il veut dire, je suis cette présence de l'homme envoyé de Dieu en toi. Et donc, Jésus utilise ce terme pour que nous puissions nous y reconnaître. Mais l'image parfaite de Dieu, et de Dieu accessible à l'homme, c'est lui. C'est lui. Et ce n'est pas pour rien que dans l'évangile de Jean, nous voyons Pilate montrer Jésus, qui a été flagellé et couronné d'épines, à la foule en disant « Voici l'homme. L'homme. L'homme massacré, vilipendé, victime de ses semblables. Voilà ce que vous faites de l'homme. Vous, humain. Eh bien, dans cette figure de l'homme meurtri, Dieu se cache. Et ici, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Dieu présent dans cette humanité, a, sur la terre, autorité pour pardonner les péchés, afin que vous découvriez que c'est en l'homme qu'est caché celui qui remet debout, même un paralysé. Il dit au paralytique, je te dis, réveille-toi. Et ce terme de réveil est important, parce que c'est un des deux mots, redresse-toi ou réveille-toi, un des deux mots qui sont utilisés pour dire la résurrection. Remets-toi debout, toi le paralysé. Et il nous arrive si souvent de nous sentir paralysés, sans force. Et cette même parole nous est dite, fils d'homme, fille d'homme, remets-toi debout, réveille-toi, lève ton grabat et pars dans ta maison. On l'apporte couché sur un grabat et on lui demande de repartir en soulevant son grabat. Son grabat, c'est tout son passé. C'est comme ça qu'on le connaissait. Couché sur son passé, accablé par ses limites, par sa situation, quelle qu'elle soit. Et voilà qu'on lui demande de porter ce passé et de retourner vers sa maison. Lève ton grabat et pars dans ta maison, dans ton chez-toi. Mais on nous a dit que la maison, c'était celle de Jésus. C'est ça. Retourne chez toi, retourne au plus profond de ton être, et quand tu auras découvert quelle merveille tu es, tu découvriras ton Dieu. Tu deviendras fille ou fils d'homme. Et il fut réveillé. Voilà quelqu'un qui se laisse réveiller. Et aussitôt, vous voyez que ça continue, hein, ça presse. Et aussitôt, levant le grabat, il sortit en présence de tous. Ne me demandez pas comment il est sorti. Il n'était pas parvenu à entrer, il n'est probablement pas sorti par le trou dans le toit. Peut-être qu'on lui a fait place, qui sait. Et ça me rappelle, hein, ce qu'on raconte du curé d'Ars, où les gens se pressaient également dans sa petite église, et puis voilà qu'un pauvre arrive et essaye d'entrer par là, ça n'allait pas, on s'y oppose, entrer par l'autre entrée, ça ne marchait pas non plus. Mais on voit que le curé d'Ars était agacé, et puis tout d'un coup, sans rien dire, il descend de la chaire d'où il prêchait, il se faufile à travers la foule, il va le chercher, il le prend par la main, il repasse à travers toute la foule en se faisant un rôle pour lui, on s'écartait. Et ce pauvre, il le met à côté de lui dans la chaire en disant tout simplement « Na !» Voilà. Attention à l'homme. Il avait reconnu ce pauvre comme un fils d'homme. Et aussitôt, levant le grabat, il sortit en présence de tous. Mais comment c'est raconté, hein? Il faut donner du poids à tout ce qui est raconté, pas seulement à l'image que nous avons dans notre tête. Nous connaissons très bien ce passage, hein? Combien de fois l'avez-vous pas entendu? Moi aussi. Et pourtant, il est nouveau. De sorte que tous étaient hors d'eux-mêmes. Ça aussi, c'est une des caractéristiques, un mot que Marc aime bien, être hors de soi, comme en extase. On est comme en dehors de sa carcasse habituelle, comme, d'ailleurs comme se paralyser. Il était hors de lui, hein, puisqu'il peut lever son grabat. De sorte que tous étaient hors d'eux-mêmes, et il glorifiait Dieu en disant « Jamais nous n'avons rien vu de semblable. » Littéralement, « Jamais nous n'avons vu ainsi. » Ça, c'est du neuf. Du neuf, que Dieu fasse une telle attention à l'homme. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, tiens, le fils d'homme, que tu en prennes souci. Tu l'as fait un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses à ses pieds. Voilà l'attention de Dieu. Mais vous avez entendu qu'il y avait eu un doute. Bien sûr, Jésus y a répondu en posant une question. Qu'est-ce qui est plus facile? Dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés? Ou dire, réveille-toi, lève ton grabat et marche? C'est vrai que encore à l'époque de Jésus, c'était vrai à l'époque de Job, mais encore à l'époque de Jésus, on se disait si ce gars-là est malade ou s'il a telle ou telle difficulté à vivre, c'est qu'il a péché. Il y a du péché quelque part. Qui est-ce qui a péché? C'est lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle, disaient les apôtres du paralysé, hein, au chapitre 9e de Saint Jean. Ta ta ta, répond. C'est pour que en lui soient manifestées les œuvres de Dieu. Nous nous braquons sur cette réalité du mal, de la souffrance, et elle existe. Jésus ne la nie pas. Mais quel est le chemin de Dieu à travers cette souffrance. C'est cela qu'il faut regarder. Le chemin de Dieu en nous, qui pour nous est capable de soulever notre passé et de le porter allègrement. Et comme Jésus va et vient, on apprit qu'il était à la maison, il leur parlait la parole, et il sortit de nouveau le long de la mer. On est à Capharnaüm, donc c'est à côté du lac. Et toute la foule, vous remarquerez comment, hein, on s'agglutine autour de Jésus. C'était les malades, c'était les gens qui venaient écouter la parole, et toute la foule venait auprès de lui, et il les enseignait. Et on ne vous dit pas ce qu'il leur disait. Toute la foule venait auprès de lui. Voilà que Jésus nous donne de nouvelles solidarités. Il nous prend dans la foule de ceux qui viennent auprès de lui. Et en cheminant, il vit Lévi. Lévi, c'est un fils de Lévi, un Lévite, un prêtre du temple de Jérusalem. Mais les prêtres n'étaient pas que prêtres, ils avaient aussi une profession. Et en cheminant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, Alpaios, assis au bureau de publicain. Un changeur, un fermier de l'État romain, donc quelqu'un qui fricote avec les Romains, au bureau de publicain. Il lui dit, suis-moi. Il avait déjà dit cela aux quatre qui avaient formé le petit noyau de sa première communauté. Et voilà un cinquième. Il lui dit, suis-moi. Et se levant, il le suivait. On ne dit pas combien de temps cela a pris. Mais on sait en tout cas qu'un beau jour, il quitte. Il quitte ce qu'il était pour suivre Jésus. Il quitte son argent, sa manière de vivre jusque-là. Se levant, il le suivit. Et c'est exactement la même parole que nous avions au verset 18 du chapitre 1er. Aussitôt, laissant les fidèles, il le suivit. Et laissant leur père Zébédée, ils s'éloignèrent derrière lui. Et il lui arrive d'être couché à table dans sa maison. Sa maison, de nouveau. Comme si la maison de n'importe qui, de tous ceux qui l'accueillaient, c'était sa maison. Il laisse planer une sorte de flou autour de ce terme, la maison. La maison, pour les Juifs, c'est l'intériorité. La maison, c'est mon chez-soi, mon chez-moi, mon intimité personnelle, là où je me retrouve. Il lui arrive d'être couché dans sa maison, et de nombreux publicains et pécheurs étaient à table avec Jésus et ses disciples. Tiens, pour la première fois, on parle de ses disciples. Jésus et ses disciples, ça ne fait plus qu'un, étaient à table avec. Et voilà les nouvelles solidarités. Ceux que les bons juifs, les purs, les gens bien pensants, mettaient plutôt à l'écart, et Jésus les donne à ses disciples comme amis. On se trouve là, au milieu des autres, de ceux qu'on ne fréquentait pas d'habitude. Car ils étaient nombreux, et ils le suivaient, les disciples, bien entendu. Et les scribes, de nouveau, ceux qui savent, ceux qui connaissent bien la Torah, qui savent comment il faut faire. Ils ne font pas toujours comment il faut faire. Ils ne font pas toujours comment il faut faire. Mais ils savent en tout cas. Nous quoi? Les scribes, du parti des pharisiens, ayant vu qu'ils mangeaient, ayant vu littéralement qu'ils mangent avec des pécheurs et des publicains, disaient à ses disciples, quoi? Ils mangent avec publicains et pécheurs? Ça ne va pas quand même. Un bon juif ne fait pas ça. Ayant entendu, ah tiens, cette fois-ci il a entendu. Tout à l'heure, il avait perçu ce qu'ils réfléchissaient dans leur cœur. Maintenant, ils prennent un peu plus de liberté et ils parlent entre eux. Et Jésus entend. Ayant entendu, Jésus leur dit, ceux qui ont de la force, ou de la santé, dirions-nous, qui sont en forme, comme nous disons aujourd'hui, n'ont pas besoin de médecins. Mais les mal portants, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il est passé de bien portant à juste et de mal portant à pécheur. Question qui nous est posée. Ayant entendu, Jésus nous dit, ceux qui ont la force n'ont pas besoin de médecins, mais les mal portants. Y a-t-il quelqu'un qui a la force? Ou bien sommes-nous tous des mal portants? Je sais bien qu'un bien portant, c'est un malade qui s'ignore. Mais enfin, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et voilà le médecin, le Fils de l'homme, qui est aussi médecin, qui s'approche de nous. C'est tout, il n'en dit pas plus. En tout cas, l'évangéliste ne nous en dit pas plus. Ça suffit pour nous faire réfléchir. Pour nous demander si nous nous laissons effectivement soigner par ce médecin. Ça n'empêche pas les pilules, ou les scanners, non? Mais c'est autre chose. Et les disciples de Jean, les disciples de Jean se trouvaient là, et on voit bien qu'ils observaient, Ils étaient attachés à Jean, et voilà que Jean avait été livré. Ils viennent voir comment ça se passe du côté de Jésus. Et les disciples de Jean, et les pharisiens, c'est-à-dire les bien-pensants, les bons chrétiens, quoi, aujourd'hui, Ceux qui font comme il faut, ils font ce qu'il faut, se trouvaient jeûnants. Il faut jeûner de temps en temps, c'est-à-dire manifester notre maîtrise sur nous-mêmes. Il y a quelque chose de plus important que la nourriture, c'est Dieu qui nous fait vivre. C'était le sens du jeûne dans la religion juive, et ça l'est encore, pour nous. Jeûner signifie une certaine maîtrise sur ce qui généralement nous fait vivre. Et on vient, et on lui dit, en raison de quoi? On compare, Attention à la comparaison. Quand on se met à comparer, ça veut dire qu'il y a la jalousie qui est en route, l'envie qui est en route. En raison de quoi les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent-ils? Et tes disciples à toi ne jeûnent pas. Tu ne les forces pas à jeûner. Tu les laisses libres. C'est curieux quand même, Mais, sous-entendu, on aimerait peut-être bien d'être de tes disciples, mais on est coincé par la Torah alors. Hein. On n'est pas assez libre. Mais tes disciples ne jeûnent pas. Donc c'est qu'ils avaient déjà acquis une certaine liberté intérieure. Le fait de vivre avec Jésus. Jésus leur dit, et vous remarquerez que chaque fois que Jésus parle, il fait réfléchir dans cet évangile de Marc. Il pose des questions. Nous, généralement, nous n'en posons pas assez de questions. C'est pourquoi on habitue le petit juif, dès qu'il a l'âge de raison, à poser des questions. Les questions ne sont pas faites pour qu'on y réponde. Les questions sont faites pour qu'on marche, pour qu'on aille de l'avant, et pour poser d'autres questions, c'est-à-dire pour nous faire vivre. Jésus leur dit, et de nouveau c'est une question qu'il pose, est-ce que les compagnons de les époux, là, c'est-à-dire hein, tous ceux qui entourent, nous dirions aujourd'hui les témoins, hein, les témoins des mariés, est-ce que les compagnons des époux, les gens invités à la noce, est-ce qu'ils arrivent hein, à la noce et puis ils se mettent à jeûner? C'est quand même curieux, hein, ils font pas ça quand même. Hein. Peuvent-ils jeûner quand l'époux est avec eux? Bon. Tout le temps qu'ils ont l'époux avec eux, ils peuvent pas jeûner quand même. On fait honneur au repas. Faire honneur au repas, c'est-à-dire partager la joie de l'époux, la joie de l'autre. On nous le disait médecin, ce fils de l'homme, et maintenant voilà qu'il se dit époux. Pas seulement médecin, hein. C'est quelqu'un qui vit avec nous une intimité d'époux. C'est profond, hein. Ben, ils ne peuvent pas jeûner. Or, viendront des jours quand l'époux sera arraché ou ravi. Il y aura un arrachement, il y aura une séparation. Et Jésus l'annonce. À ce moment-là, ils pourront jeûner. Ils pourront vivre dans le jeûne, c'est-à-dire dans la simplicité et dans l'ouverture de cœur. Ils pourront vivre cette séparation, sans se refermer sur elle. Viendront les jours quand l'époux sera ravi d'eux, alors ils jeûneront. Ce jeûne aura une véritable signification, une signification d'ouverture, d'espérance. Ils jeûneront en ce jour. Et puis, Jésus ajoute d'autres sentences de sagesse, c'est comme ça qu'on peut les appeler. Vous en trouvez des quantités dans le livre des Proverbes. Et personne ne met du vin jeune, du vin qui fermente, qui est jeune. Alors, personne ne recoue une pièce rapportée de drap qui n'a pas été foulé, qui n'a pas été lavé, sur un vieux vêtement. On ne va pas recoudre une nouvelle pièce sur un vieux vêtement, sinon ça va casser, ça va se déchirer. Autrement, le morceau ajouté tire sur lui, le nouveau sur le vieux, et la déchirure devient pire. Donc il y a de la nouveauté dans l'air. Et la nouveauté, ça ne s'applique pas tout simplement sur le vieux. Il faut qu'il y ait un renouvellement intérieur, qui permette de s'adapter au nouveau qui vient. Donc il y a tout un chemin à faire. Il faut se travailler intérieurement. C'est peut-être ça le vrai jeûne. Le vrai jeûne, c'est toute une adaptation à cette présence du Seigneur. Et il prend une autre comparaison. De choses qui sont étriquées. Un vieux vêtement, hein, ça a rétréci. Et du vin. dans des outres, les outres ont peut-être un peu rétréci aussi. Les outres qui sont devenues vieilles. Personne ne met du vin jeune dans de vieilles outres. Il faut tout renouveler. Autrement, le vin mettra en pièces les outres. Le vin est perdu. Et les outres aussi. Donc, renouvelez-vous, ou laissez-vous renouveler par cette nouveauté qui vient vers vous. Et on n'a pas encore parlé du royaume de Dieu. On a parlé de bonnes nouvelles. On a parlé de lui et de sa parole. Mais du vin jeune dans des autres nouvelles. Et il lui arriva, pendant le jour du sabbat, on y revient. Le jour du sabbat, c'est un jour de repos. On va généralement à la synagogue. Mais il lui arriva le jour du sabbat de passer à travers des champs de blé. Ses disciples, voilà que le mot, puisqu'on l'a introduit, il peut revenir. Et on sait maintenant que ses disciples, ce sont ceux qui marchent avec lui ou derrière lui, qui le suivent. Et ses disciples commencèrent, bien ça commence, la nouveauté du chemin commence, à faire chemin en égrenant les épis. On a faim, ou peut-être pas tout à fait faim, mais enfin, hein, tout en marchant, on égrène des épis et on mange les épis qui sont mûrs. Et les pharisiens lui disaient, vois pourquoi font-ils le jour du sabbat ce qui n'est pas permis. Permis, pas permis. Qu'est-ce que ça veut dire permis? Il y a plein de questions, hein, cet évangile. Permis, pas permis. Qu'est-ce qui permet? Et ça nous fait réfléchir ce que signifie la loi, la Torah. Il leur dit, et c'est de nouveau une question qu'il pose, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim? Et c'est une petite histoire du premier livre de Samuel qui montre David qui était en train de briguer la royauté et qui combattait Shaoul, hein, qui était roi à ce moment-là. Et il avait ses preux avec lui, ses soldats, ses gorilles, dirions-nous aujourd'hui, ceux qui le protégeaient. Et on était un jour de sabbat, on avait faim, on ne trouve pas de nourriture, nulle part. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lui et ses compagnons, comment il entra dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans le temple, un petit temple, c'était peut-être pas encore le temple de Jérusalem, qui n'était pas construit, puisque c'est Salomon qui l'a construit, après David donc. Il entra dans la maison, voilà que la maison revient de Dieu, à l'époque du grand prêtre Aviatar, et mangea des pains de proposition. Le seul endroit où on pouvait trouver encore du pain, boulangerie fermée, hein, personne n'avait plus de pain à la maison. Ah là, dans le temple, il y a encore des pains de proposition, c'est-à-dire les pains que l'on offre à Dieu. Bon, c'est peut-être un peu durci, peut-être un peu de pain rassis, mais enfin, c'est du pain tout de même. Et il mangea des pains de proposition qu'il n'est pas permis de manger, hein, il souligne, il mangea de ce qui n'est pas permis de manger, sinon aux prêtres. C'est la part des prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui étaient avec lui. Question. réfléchissez au permis et au défendu. Est-ce qu'il est permis de nourrir la vie de ses semblables, même le jour du Shabbat? Qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Le Shabbat, c'est la cessation du travail. Pas un chômage forcé, mais une cessation volontaire. C'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui donne la vie. Et pour affirmer cela, un jour par semaine, je vais réfléchir, je vais prier ce Dieu qui crée et qui donne la vie. Donc le Shabbat, c'est laisser entrer Dieu, c'est laisser la place à Dieu dans sa vie. C'est permis? C'est pas permis? Il ne s'agit pas de cela, dit Jésus. Il s'agit de savoir pourquoi c'est permis ou non permis. Vous dites cela en termes de permis et de défendu. Moi, je lis les choses en tant que Dieu qui donne la vie et qui permet à la vie de vivre dans l'homme. C'est ça qui est essentiel. Et la référence au Shabbat, vous le savez aussi bien que moi, que dans l'Exode et dans le Deutéronome, elle est double. Dieu a cessé de travailler pour laisser l'homme exister et prendre ses responsabilités, ça c'est la référence à la création. Et le Shabbat, vous vous souvenez que vous avez été en Égypte opprimé par les Égyptiens, soumis au travail, et donc une fois par semaine, vous libérerez vous-même, vous vous libérerez du travail, vous ne serez pas des stressés du travail, ou du bonheur, comme le dirait le cardinal, mais vous serez des gens libres, et qui disent, cette journée où je pourrais travailler et faire des choses pour moi, je les laisse à Dieu. Ce jour-là, je le laisse à Dieu. Je laisse Dieu exister, librement. Et pas seulement moi-même, mais mon frère, ma sœur, mes servantes, mes serviteurs, jusqu'à l'étranger qui habite chez toi. C'est curieux, hein? Dans ce commandement du sabbat, on a remarqué, les rabbins ont remarqué, on ne parle pas de la femme. Et donc, passage, j'ai fait allusion au chapitre 20 du livre de l'Exode, tu te souviendras du jour du Shabbat pour le sanctifier, pour laisser la sainteté de Dieu prendre sa place dans ta vie. Pendant 6 jours, tu travailleras, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e est un Shabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour, c'est-à-dire il a donné à l'homme sa responsabilité. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Bon, vous aurez remarqué, hein, il ne dit pas « tu ne feras aucun ouvrage, toi ni ta femme ». Du curieux. Nous prenons Deutéronome, chapitre 5. Un peu différent, mais enfin, c'est le même commandement. observe le jour du Shabbat pour le sanctifier, comme Dieu te l'a commandé. Pendant 6 jours, tu travailleras, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un Shabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Tu n'y feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ainsi comme toi-même, ton serviteur et ta servante pourront se reposer. Dieu peut se reposer pour laisser à l'homme sa responsabilité, ainsi que l'homme puisse se reposer et pour laisser aussi à tous ceux qui dépendent de lui, laisser se reposer et prendre leurs responsabilités. Être des hommes aussi, et pas toujours soumis à un permis défendu. Tu te souviendras, voici la motivation, que tu as été en servitude au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a commandé de garder le jour du sabbat. Le sabbat, c'est le jour où on libère les autres et soi-même et la femme. Les rabbins se posent évidemment la question. Alors, certains rabbins disent, mais si on demande ça à l'homme, et comme l'homme, hein, depuis la Genèse, ne fait qu'un avec sa femme, ils seront deux en une seule chair. Donc, s'il parle de l'homme, il parle aussi de la femme. Donc, elle y est présente. Il y a aussi une autre tradition qui s'apparente à la liturgie juive. Mais la femme, c'est le sabbat. La femme, c'est celle qui libère. C'est celle qui met l'enfant au monde, qui le nourrit. Hein? Elle le nourrit le jour du sabbat comme les autres jours. Elle est le signe de Dieu qui donne la vie et qui libère. Et donc, la femme, c'est le sabbat. C'est la libération. D'ailleurs, quand l'homme, hein, le mari, le mâle, avec les fils, qui est lui tenu d'aller à la synagogue le vendredi soir, quand il va prier Dieu à la synagogue, c'est pour recevoir le Shabbat. C'est la Kabbalat Shabbat. La réception du Shabbat. Et le Shabbat vient comme la fiancée. La fiancée, la femme, qui vient de la part de Dieu et qui libère l'homme de son travail. Qui le rend vraiment homme. Et le soir du Shabbat, on prend congé du Shabbat, de la fiancée Shabbat, qui retourne vers Dieu. Épouser le Shabbat, c'est être libérateur. Et vous voyez, nous sommes dans la mouvance des épousailles, on vient d'en parler. Et Jésus leur disait, il a posé la question, il a renvoyé à la prescription du Shabbat. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire le jour du Shabbat ? Donner la vie. Lorsque la vie d'un homme est en question, toutes les lois du Shabbat cessent. Parce que observer le Shabbat à ce moment-là, c'est donner la vie. Et il leur disait, le Shabbat a été fait en raison de l'homme, et non pas l'homme en raison du Shabbat. C'est pas propre à Jésus, là, hein ? On le trouve déjà chez les rabbins avant lui. Mais Jésus le reprend à son compte. Mais il ajoute quelque chose. Ça, c'est de son cru. De telle sorte que le Fils de l'homme, tiens, alors voici, le Fils de l'homme est Seigneur même du Shabbat. C'est la libération de l'homme qui est au centre du Shabbat. La gloire de Dieu, disait saint Irénée, c'est l'homme vivant. Faire vivre, au fond, c'est ça que nous avons à faire. C'est pas le permis et le défendu. Est-ce que nous faisons vivre? Est-ce que notre vie se passe à faire vivre les uns les autres? Et nous achevons, si vous le voulez bien. Et il entra de nouveau dans la synagogue et se trouvait là un homme ayant la main desséchée, une main toute paralysée. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la main desséchée? Ça veut dire quelqu'un qui ne peut plus agir. La main, c'est l'action. Avoir la main desséchée, c'est quelqu'un qui ne peut plus agir dans ce monde. Qu'est-ce qu'il est rosé, en quelque sorte? Et on les pillait, cette fois-ci. Vous voyez que ce qui était un peu une opposition larvée devient de plus en plus clair. Et on les pillait pour voir s'ils le soigneraient. Le jour du sabbat, afin de pouvoir l'accuser. L'accuser de quoi? Ben de ne pas observer la loi. Ou plutôt, de l'observer d'une manière trop libre pour les gens qui aiment bien des règles fixes. C'est un peu trop libre, ça, hein? D'être au service de la liberté et de la vie des hommes. On aime mieux avoir des règles précises. Il dit à l'homme, ayant la main sèche, réveille-toi au milieu, de nouveau le réveiller. C'est-à-dire, vis au milieu. Et il leur dit, à ceux qui posaient des questions sur le jour du Shabbat, le jour du Shabbat, est-il permis de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une vie ou de tuer? Bon, dit comme ça, évidemment, c'est clair, c'est compréhensible. Faire du bien, si tu ne fais pas du bien, tu fais du mal. Sauver une vie, ah, si tu ne sauves pas une vie, tu tues. Et ceux-ci se taisaient. Ils commencent à comprendre. Le sabbat, c'est l'expression de la libération. Qui vient de Dieu pour l'homme, pour que l'homme puisse libérer ses semblables. Et il les regardait autour de lui avec colère, contristé de l'endurcissement de leur cœur. Comment jugeons-nous? Comment jugeons-nous? D'après ce qui est permis ou défendu, ou d'après la libération que Dieu octroie à ses enfants, fils de l'homme. Comment jugeons-nous? Est-ce que nous jugeons en mauvaise part? Est-ce que nous trouvons toujours ce qui est mal? Ou bien est-ce que nous découvrons dans les autres, c'est ce qui les libère, ce qui les fait vivre, ce qui construit une communauté, une société. Question qui nous est posée. Et les regardant avec colère, contristés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. C'est la parole que Dieu avait dite à Moïse lorsque la mer était en train, la mer rouge, était en train de de se bousculer et que Moïse, avec le peuple d'Israël, craignait de passer à travers, étend la main. Il l'étendit et sa main fut restituée. Dieu restaure notre agir dans la mesure où nous ne jugeons plus les autres. Et étant sortis, les pharisiens aussitôt, avec les Hérodiens, ils se mettent d'accord avec les gens de la compagnie d'Hérode, tenaient conseil contre lui en vue qu'il le perde. Voilà. Là où Jésus met la vie, ils mettent la mort. La question nous est posée. Jésus rencontre les hommes dans le quotidien de la vie des hommes. Il donne la vie, il libère, il met debout. Nous mettons cette action de vie en suspicion. Nous jugeons. Et nous faisons mourir. Lui en nous, lui dans les autres. Voilà comment Jésus entre dans la réalité de notre quotidien. Il est libérateur, mais nous avons peur de la liberté. Nous avons peur de la liberté. Voilà. Nous arrêtons ici et nous nous retrouverons à 5 heures.